franceinter.fr.
Copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guilin.
Docteur, il fait de l'anémie, il ne mange pas.
Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, ma chérie, je ne peux pas vous dire, mais bouffez-le.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, alors faut pas du tout en vouloir mon réalisateur, donc Christophe Imbert, qui s'est un petit peu lâché, vous savez ce que c'est, oui, il est bronzé, on aime ça, donc il n'y a pas de raison. Basile Bocquer et Pierrick Monsigny sont à la technique aujourd'hui, Virginie Ledio est notre assistante, je n'oublierai pas Albert Houck du Maine-et-Loire, Patrick Deschamps de l'Isère, et donc Christophe Imbert, dénonçons-le, qui réalise cette émission. J'espère que vous allez bien cet après-midi. L'été est pas loin, mais oui, bien sûr qu'il est là. Tenez, une petite actualité avec le ciel qui malheureusement a fait plein de dégâts humains et matériels, on le sait. La grotte miraculeuse de Lourdes est devenue un grand bain olympique avant que la boue qui s'y est accumulée ne la transforme en improbable thalasso. Alors les orages et le déluge ont porté beaucoup de choses. Tout, ben non, parce qu'il y a encore un village de paille et de bois qui résiste. On appelle ça des ruches. Alors elles aussi auront encore connu cette année neige, froid printanier, mortalité inexpliquée, famine, maladies, parasites, pesticides, frelons asiatiques, j'en passais les meilleurs. Il ne manquerait plus que les abeilles deviennent allergiques à tous ces pollens qui circulent dans l'air. Ce serait un comble. Il y a aussi une Europe qui a commencé à serrer, oula, un tout petit peu la vis aux néonicotinoïdes. Alors, ça aura en fait très peu d'impact à cause de ce qu'on appelle la rémanence de ces produits dans le sol. Et les mêmes produits d'ailleurs sont utilisés, mais cette fois-ci en pulvérisation sur les arbres fruitiers. Donc c'est vous dire si on a de l'ambition écologique. Alors ce week-end quand même, voici les Happy Days. Alors Happy, ça s'écrit A-P-I, hein, comme apiculteur, parce que c'est avant tout la vitrine des apiculteurs. C'est donc la fête aux abeilles autour des butineuses essoufflées, héroïnes de la classe ouvrière, toujours aussi craquantes avec leur taille de guêpe, et endiablées et tenaces, eh bien, elles retroussent leurs papates, des brosses à pollen, leurs barboteuses de fourrure, et retrouvent dans les nouvelles fleurettes bien un peu plus de morale et donc un peu moins de bourdon, mais l'abeille domestique mellifère n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien s'en rendre compte. On parle de sentinelles de l'environnement, bien sûr, mais c'est l'ensemble des pollinisateurs sauvages et autres insectes qui souffrent autant que notre mouche à miel. Alors on va sortir les tréteaux, là, tout ce week-end, les instruments de musique, on se rassemble pour fêter ça à dardard jusqu'à la fin de ce week-end, jour du solstice d'été. Dans les rayons, l'ambiance est à la hausse, le miel d'or coule à flot dans les pots. Fête des abeilles d'un côté, de la musique le même week-end, c'est formidable, violon, tambour, maracas. Et avant les grosses chaleurs, les cigales des vacances et l'euphorie du grand oubli, eh bien avec les ruchers solidaires, avec les abeilles, dansons la Zumba. Pas d'ailleurs si on va danser la Zumba du côté de la Saône-et-Loire, je vous dis ça parce que j'ai reçu un courriel, on a eu le temps de le vérifier aussi. Donc les viticulteurs de Saône-et-Loire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, s'apprêtent dans les jours qui viennent à utiliser des traitements qui sont nocifs, qui sont interdits dans plusieurs pays pour lutter contre la flavescence dorée. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose pour lutter contre non plus que des armes chimiques, mais ces gens-là ont reçu un mail de l'inspection de l'éducation nationale et qui exige que les écoles suppriment toute sortie de séances d'éducation physique en extérieur et en récréation. On se dit que c'est effectivement plus raisonnable. En revanche, les particuliers ne sont pas informés. Voilà, donc les enfants peuvent continuer de jouer dehors et de se baigner quand ils ne sont pas à l'école. Donc il y a peut-être quand même là un petit souci d'information aussi auprès du public. Un magazine avec 5 rubriques, 5 sujets à feuilleter. Vous allez voir, je vais vous emmener en Autriche. On va parler d'une région très écologique qui s'appelle le Vorarlberg. Nous allons rencontrer un entomologiste qui est plein d'humour. On va parler de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Mais nous avons d'abord deux autres sujets. Tenez, une petite actualité, on va dire au sens large, qui va nous emmener à Saint-Gervais, Saint-Gervais-Mont-Blanc, donc au pied du Mont-Blanc. Donc nous sommes dans le département de la Haute-Savoie parce que s'y déroule ce week-end le pentathlon du WWF. Et donc des équipes sportives sont là pour ramasser des fonds pour des actions environnementales. Et Jean-Marc Peuillex, vous êtes le maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Tenez, faites-nous un petit peu le Joël Colado local. Quelle est la météo ?
Bah écoutez, on commence un tout petit peu l'été. Alors c'est vrai qu'on est dans une période de dérèglement climatique. Alors on est un peu dans un temps de mousson, c'est-à-dire que le soir, vers 17-18 heures, les nuages arrivent et de temps en temps, il y a un orage.
Alors Jean-Marc Payex, on va parler avec vous du pendathlon qui est organisé par le WWF. Qu'est-ce que c'est que le pendathlon? Ça se passe chez vous ce week-end?
Ah ben, le pendathlon, ça se passe à côté du Mont-Blanc, sous le Mont-Blanc, sous les glaciers du Mont-Blanc. C'est une épreuve qui est magnifique parce qu'elle réunit des coureurs, des sportifs ou des un peu moins sportifs, mais qui viennent et qui vont venir à Saint-Gervais pour faire une course et ils vont monter jusque sous le nid d'aigle. C'est au profit d'une belle cause qui est le respect de l'environnement, le respect de la nature et bien sûr par conséquent le respect des hommes.
Jean-Marc Payex, alors vous êtes un amoureux évidemment du Mont-Blanc. Qu'est-ce que l'on fait avec la fréquentation, voire la surfréquentation qui a lieu du côté du Mont-Blanc? C'est un sujet qui vous est extrêmement cher.
Oui, le Mont-Blanc, c'est un site classé. C'est pas un site qui est protégé d'une manière différente que celle d'autres sites très emblématiques de notre beau pays qu'est la France. Et donc, ce site classé n'est pas forcément respecté par les gens qui gravissent le Mont-Blanc, en particulier par la voie royale de Saint-Gervais, qui voit passer près de trois quarts des alpinistes qui tentent le sommet. Alors, on ne peut pas aujourd'hui avoir une montagne qui est protégée, et qui est protégée parce qu'elle est symbolique, parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle est, elle est à respecter, et avoir des gens qui font fi de toutes les règles, qui font des trous dans la neige pour enterrer leurs ordures, qui font des trous dans la neige pour faire leurs besoins, et tout ça, eh bien, ça va être conservé comme dans un congélateur pendant des décennies avant de se retrouver peut-être un jour dans votre verre d'eau. Donc là, j'exagère un tout petit peu. Mais on ne peut plus continuer à avoir des gens qui viennent dans cette montagne et qui n'en respectent pas les règles. Et la règle essentielle, c'est qu'on n'est qu'un invité dans la montagne, on n'est qu'un invité sur le Mont Blanc et on se doit impérativement de faire en sorte que la montagne ne retienne plus qu'une chose ensuite, c'est la trace de nos pas.
Ça se passe comment? Par la contrainte, par la pédagogie? Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre de mesures qui ont été prises. La première, ça fait plus de 6 ans que la commune de Saint-Gervais fait venir un Sherpa du Népal pour parler avec les alpinistes, leur expliquer qu'on ne fait pas de la montagne dans n'importe quelle condition, qu'on ne fait pas le Mont-Blanc dans n'importe quelle condition, que le camping est interdit, toute forme de camping est interdite dans un site classé, qu'on ne va pas dans un refuge si on n'a pas réservé sa place. On a aussi du personnel communal qui, dans le tramway du Mont-Blanc, qui est le train à crémaillère le plus haut de France, explique à ces alpinistes les mêmes règles. Eh bien, ça, c'est une partie des mesures, mais malheureusement, ceux qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Et ceux qui savent qu'il n'y a pas de sanctions se moquent un peu de tous ceux qui vont faire passer ce message.
Combien de personnes tous les ans grimpent au Mont-Blanc aujourd'hui?
Entre 20 et 30 000 personnes par an, entre le 15 juin et le 15 septembre. Et qui font le Mont-Blanc quasiment sur un chemin qui fait 50-60 cm, 1 mètre. Donc imaginez 30 000 personnes dans l'immensité de la montagne pendant 4 mois, c'est pas du tout important. Par contre, 30 000 personnes sur le même chemin qui laissent leurs ordures au même endroit. Les ordures, quand un alpiniste laisse ses ordures dans un refuge, il faut un hélicoptère pour les descendre. Oui. Il n'y a pas de tuyau d'égout dans la montagne. Il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères. Donc tout ça, si vous voulez, il faut que ça change et il faut que les gens comprennent que pour les générations futures, il faut qu'on préserve notre capital et notre capital, c'est la nature.
Tout s'est bien passé, on est en train de finir les dernières charges au Super Puma, les charges lourdes. Par rapport à l'année dernière, l'expérience et les erreurs qu'on a accumulées nous ont porté leurs fruits. Et cette année, on part sans catastrophisme. Donc là, cette année, les estimations, c'était 20 000 plus ou moins 4 000. Et on a pompé 16 300 m3. Donc l'épaisseur de glace était un peu moins épaisse pour atteindre la cavité. Donc on a gagné du temps là. Et on a pu réutiliser au moins au début les anciens puits qui restaient de l'année dernière.
Jean-Marc Payex, donnez-nous des nouvelles aussi de ce fameux glacier de la Tétrousse qui vous a posé des problèmes, qui est à 3200 mètres d'altitude, que vous avez été obligé de pomper parce qu'il menaçait d'inonder la vallée de Saint-Gervais. D'ailleurs, aussi, c'était un thème extrêmement ancien, hein, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette poche d'eau?
Alors, ce glacier est le glacier le plus surveillé du monde, hein, puisqu'il y a de la population, une population importante qui habite en dessous dans les vallées de Saint-Gervais. Donc, on peut dire que les gens qui viennent à Saint-Gervais, ceux qui vont venir pour le pendathlon, sont dans un endroit qui est très sécurisé. Malheureusement, ce glacier, c'est un glacier très particulier parce que c'est un glacier qui est enchâssé dans une cuvette en pierre et toute l'eau qui s'accumule dans le glacier ne peut pas s'échapper. Il n'y a pas d'exutoire, il n'y a pas de torrent au bout du glacier, puisque c'est une cuvette qui fait 78 mètres de profondeur. Donc, il est sous surveillance. On a encore pompé l'année dernière pour évacuer la pression de l'eau. Cette année, normalement, nous ne ferons pas de pompage, mais on continue à faire des mesures radar, des mesures de résonance magnétique des protons pour voir l'évolution justement du remplissage des différentes poches qu'on a pu découvrir dans ce glacier. Mais je le répète, le glacier le plus surveillé du monde et à Saint-Gervais, on peut dormir sur ses deux oreilles sans aucun problème.
Merci Jean-Marc Payex. Nous allons maintenant traverser la France puis l'Atlantique pour, on va dire, retrouver Jean-Marie Pelt. Bonjour Jean-Marie Pelt, vous allez nous raconter en fait une histoire qui est contemporaine, qui est extraite de Héros d'humanité. Vous allez nous raconter l'histoire du peuple du jour. Alors nous sommes du milieu du jour, nous sommes dans la jungle équatorienne et on va rencontrer ce peuple Sarayaku.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Effectivement, la jungle équatorienne, c'est la partie de l'Amazonie qu'on connaît le moins bien, du point de vue scientifique, du point de vue botanique en particulier. Ces Kishnas de Sarayaku sont des Indiens qui ont été menacés, comme beaucoup de tribus indiennes, par le progrès. En l'occurrence ici, ce sont les pétroliers argentins. Les pétroliers en question ont débarqué sur leur territoire et s'y sont installés comme chez eux. Or, leur territoire était un territoire protégé par l'État équatorien, car ces Indiens avaient fait 500 km à pied pour aller à Quito pour se faire reconnaître leur territoire. Ils sont 1200 personnes, c'est pas beaucoup, sur un territoire immense, mais nous sommes ici dans les grandes jungles amazoniennes. Donc ils n'ont pas accepté que bien, les pétroliers s'installent comme chez eux. Et ils ont mené de la résistance active, parce que quand les pétroliers ont commencé à empiéter un peu trop, tout le peuple Sarayaku a foncé sur eux, et les femmes ont fait des mimiques, ont fait une gestuelle, les ont menacés, les pétroliers ils ont eu peur, ils ont laissé tomber leurs instruments, leurs outils, etc., et puis, ils se sont sauvés parce que ces Indiennes avaient du punch. Alors, la suite, c'est que ce peuple n'a pas cédé. D'habitude, on cède pour de l'argent. Quand on fait un centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, en Lorraine, dans ma région,
on arrose
copieusement les municipalités pour que ça puisse se faire. Là, on fait exactement la même chose. On arrose les tribus indiennes et puis elles ferment leur bouche et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Eux n'ont pas cédé.
Et en fait, la cour s'est déplacée, oui. Ce qui est assez extraordinaire.
C'est assez extraordinaire. La cour de justice d'Amérique, ils leur ont donné raison. Les juges se sont déplacés, ils ont vérifié les dires de nos Indiens, ils ont vu leur territoire et ils leur ont donné raison. Ben, les pétroliers ont dû reculer, ce qui est un cas unique dans les annales.
La raison du plus faible.
C'est la fable de la raison du plus faible. Absolument, c'est un de mes bouquins où j'aurais pu raconter cette histoire. Mais à l'époque où je l'ai écrit, il y a 3 ans, je ne connaissais pas encore l'histoire de ces Indiens. Et puis là, ils ont fait autre chose. Ils ont dit, nous sommes les gardiens de la terre. Si notre terre est prise et abîmée, alors c'est toute la planète qui sera abîmée. Parce qu'ils font le lien entre le microcosme et le macrocosme. Comme les Indiens Kogi, dont parle si bien Eric Julien, notre ami. C'est la même chose. Ils disent, ce qui nous arrive à nous arrivera à tous les autres. Donc nous sommes les gardiens. Nous sommes les gardiens des valeurs aussi, qui sont les valeurs de l'écologie, bien entendu. Alors ils ont eu cette idée, que je trouve si belle, de borner leur territoire, non pas par des bornes en pierre, comme c'est fait pour toutes les frontières, mais avec des arbres. Ils sont en train de planter des arbres, et des arbres qui ont des fleurs colorées aux frontières de leur territoire. Alors il y a des albizias ou des jacarandas qui sont tout bleus quand ils fleurissent, il y a des flamboyants ou des tulipiers du Gabon qui sont tout rouges, et quand on sera en avion et qu'on passera sur leur territoire, on dira c'est ici que vivent les Sarayaku, comme l'atteste la frontière de vie.
Oui, c'est ça, le projet frontière de vie.
C'est le projet frontière de vie. Ils manifestent leur goût pour la vie à la frontière. Alors d'habitude, c'est le contraire qui se passe. D'habitude, aux frontières, on laisse plutôt les choses en déshérence par rapport aux pays voisins. Ben, eux, ils font tout à fait le contraire. Ils marquent leurs frontières pour qu'on sache que c'est là qu'ils vivent.
Des oies au cœur de la ville. Pour le collectif Artistes et Frontières, il s'agit de créer l'événement, d'éveiller les consciences. Nous sommes à Nanterre, à quelques pas de l'autoroute. Alors, ils se sont octroyés une terre entre les HLM et la voie rapide. Un jardin où chaque artiste, avec un peu d'idéalisme, est venu planter son arbre en soutien aux Indiens d'Amazonie.
On est dans un écho presque magique. En Amazonie, des hommes qui veulent maintenir leur lien ancestral à la nature. Et ici en France, à Nanterre, des hommes et des femmes qui veulent retrouver leur lien avec la nature. Et c'est ça qui fait écho.
Ils sont soutenus par Corinne Arnoux, qui est une jeune femme qui les représente, si je puis dire, ici en France et en Europe. Ils ont aussi des artistes qui les soutiennent. Enfin, il y a toutes sortes d'associations qui se sont constituées autour de ces Indiens.
Mais ça veut dire qu'il y a des valeurs communes quand même qui soudent ces différentes communautés, qui relient les générations aussi entre elles. Oui. Et puis, il y a aussi les biologistes modernes qui nous ont appris que l'évolution se fait par les marges, oui. Que les systèmes n'évoluent jamais dans leur cœur.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'ils disent de leur société. Ils ne sont pas complètement hermétiques au progrès tel que les Blancs, tel que nous l'imaginons, mais ils disent qu'il faut picorer dans le progrès ce qui sera bon pour eux et laisser tomber tout le reste. Voilà, donc ils gardent leur tradition, ils sont très à cheval sur leur tradition. Dans leur petite école, ils enseignent aux enfants les traditions. Et puis, quelques éléments du progrès, notamment en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'alimentation. Donc, c'est un petit laboratoire. Moi, je trouve que c'est très joli, où se construit peut-être le monde du futur. Et j'ai terminé ce chapitre d'Héros d'humanité en rappelant que c'est aussi dans cette région qu'on a trouvé les plantes qui seront les plantes des millions d'années qui viennent et qui ont perfectionné leur système reproducteur en protégeant encore mieux leurs organes femelles et leurs gamètes femelles. Eh bien, eux, c'est peut-être déjà une humanité du futur qui se constitue là, sur les marges, comme vous l'avez dit, parce que ce n'est pas à Paris que se crée l'université du futur, c'est effectivement à des endroits perdus. Où se font des initiatives voilà, qui porteront leurs fruits plus tard.
Et puis le nom de ce peuple est super, le peuple du milieu du jour.
Oui, ils s'appellent comme ça. Ils disent qu'ils sont le peuple du milieu du jour. Ils disent que personne jamais ne les a humiliés et qu'il est impossible de les humilier. Ils ont une fierté. Je veux dire, c'est pas des cloportes. Il y a tant de cloportes.
Merci Jean-Marie Pelt, héros d'humanité. On se retrouve bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Oui, au revoir Denis, au revoir à tous.
Voilà, donc c'est le dernier livre de Jean-Marie Pelt aux éditions Flammarion, Héros d'humanité. Je vous emmène après en Autriche, dans le Vorarlberg. Et puis ensuite, nous reviendrons en France dans le Puy-de-Dôme. J'espère que vous allez bien. Voici Étienne Dao. Cela s'appelle Les chansons de l'innocence. Tenez, un autre registre musical. Oui, ça j'avais dit, mon réalisateur, si tu peux éviter, mais c'est pas grave, on va quand même partir dans le Vorarlberg en Autriche. Et là, c'est un sujet qui est donc tout à fait intéressant, qui est extrait de ce livre magazine qui s'appelle « Oui, demain ». Là, c'est le numéro 4. « Oui, demain » pour changer d'époque, avec des thèmes très différents, mais qui nous envoient justement sur le monde de demain. Ce que nous ferons d'ailleurs aussi à la rentrée encore plus, avec beaucoup d'initiatives, avec, je dirais, presque une ronde autour du monde dans ces hauts de mon amour. Voilà, on va avoir des initiatives de jeunes, des initiatives de start-up. Donc, tout ceci prendra corps au fur et à mesure, et surtout avec vous aussi, avec les réseaux sociaux, que l'on va encore plus développé. Donc le Vorarlberg en Autriche, alors juste pour un petit peu le situer, on est à l'extrême ouest de l'Autriche, 370 000 habitants, on est bordé par le lac de Constance, c'est un lander, parce que là-bas on est dans des landers qui sont autonomes et organisés de façon décentralisée, hein, pas du tout comme la France, dirigé depuis 30 ans par un parti de centre droit qui a une sensibilité écologique, c'est un peu là et d'ailleurs aussi en Allemagne, hein, que sont nés les passives à hausse, autrement dit les maisons passives. Alors Éric Tarian, d'abord bonjour à vous et expliquez-nous Éric Tarian, s'il vous plaît, comment ce lander qui fut un des plus pauvre est aujourd'hui un des plus riches, donc le Vorarlberg.
Bonjour Denis. Oui, c'est en partie du fait de cette pauvreté qui est née cette richesse. Ils se sont dit, en fait, on peut exploiter les richesses locales, qui est notamment la richesse du bois, et tout est né, en fait, c'est un pays où il y a 45% de la surface du land est recouvert de forêts, notamment de sapins blancs. Ils se sont dit, dans les années 60, il y a une école d'architecture qui s'appelle l'école du Vorarlberg qui est née. C'est le point de départ de cette révolution écologique est né de ces architectes écolos qui ont tiré dans le sens du développement durable toute la population au fur et à mesure dans les années 80-90.
Alors, aussi dans ce Vorarlberg, on constate qu'il y a un tourisme architectural. Hein. Vous avez 150 agences d'architectes qui emploient quand même 800 personnes. On vient dans ce land qui, un peu partout du monde entier, en Europe, ça a inspiré aussi pas mal d'éco-quartiers chez nous. Et alors, il y a un petit miracle économique parce qu'en fait, il y a une alliance entre les architectes professionnels, les métiers du bois qui travaillent ensemble.
Oui, c'est ce qui fait la force de cette région, c'est de vraiment travailler ensemble, on n'est pas les uns contre les autres. Et là, on trouve au sein de cette filière qu'ils arrivent à cohabiter et à travailler ensemble de façon très fine et très efficace entre architectes et tous les métiers du bois, en fait, les métiers de la construction, de la charpente, de la menuiserie. Et ils sont arrivés à une grande efficacité économique dans la filière. Ils sont arrivés à créer beaucoup d'emplois dans le secteur. Ils sont arrivés à maintenir des emplois en zone rurale grâce à ce travail sur la filière bois.
Et vous avez rencontré aussi un maire qui s'appelle Joseph Matisse, hein, d'une petite commune de 3000 habitants. Et cet homme-là, donc depuis longtemps, souhaite faire participer sa population. Il estime que c'est une politique ascendante qui implique systématiquement les administrés qui font le succès après de ce que l'on voit.
Oui, c'est ça, c'est une des clés du succès du Vorarlberg. C'est que là, on le voit au niveau local, au niveau de cette petite commune de Schwissenwasser, là, qui veut dire entre deux fleuves, entre deux cours d'eau, mais on retrouve ça au niveau du land. L'idée, c'est qu'il n'y aura pas de changement véritable si on n'associe pas la population. Il y a une structure qui est assez étonnante, qui s'appelle le Bureau des questions du futur, qui a été créée en 1999 et qui vise à mobiliser la population, à transformer les simples habitants et consommateurs en citoyens, en leur disant « c'est de vous que viendra le changement, il faut qu'on vous donne les moyens, on vous aide à vous donner les moyens de changer, de transformer le land ». Et ça part en effet d'une politique d'écoute par des conseils citoyens et ensuite les hommes politiques se mettent à l'écoute des décisions qui émergent de ces conseils citoyens.
Il y a une stabilité au-delà de la culture par rapport à ces énergies renouvelables, par rapport à l'écologie, bon, qui existe depuis longtemps dans ces pays, en Allemagne, en Autriche. Mais je veux dire qu'il y a une stabilité aussi d'un président de ce lander, ministre, qui pendant longtemps a fait de la protection du climat le fer de lance de sa politique.
Tout est né autour de 97 d'un certain monsieur qui s'appelle Herbert Sausgruber, qui a été ministre-président du Land de 97 à 2011. C'est un parti de centre droit, hein, qui a une politique de bon père de famille et qui pense qu'il faut utiliser les intérêts et pas le capital.
Alors, il y a des moyens aussi, il y a une politique peut-être plus générale. Comment sont incités les gens? Parce qu'on se doute bien qu'avoir une sensibilité écologique est une chose, mais d'avoir des moyens pour le réaliser en est une autre.
Oui, en effet, l'État se donne beaucoup de moyens, avec notamment investit beaucoup d'argent. Hein. Il y a des intérêts on peut faire des emprunts à taux préférentiel très intéressants. L'État investit beaucoup d'argent pour inciter les gens à isoler mieux leur maison, à changer leur chaudière, à trouver des... On retrouve en fait toute la logique du scénario des gigawatts, de sobriété, d'efficacité énergétique et de renouvelable. Et c'est ça qui est assez passionnant. Nous, on a un peu de mal en France à se lancer dans cette logique.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Voilà, ici dans le Vorarlberg, ils sont arrivés à décliner cette logique de sobriété, efficacité, énergie renouvelable.
Alors Éric Tarian, il y a aussi une chose intéressante, ce sont les monnaies locales. Bon, ça existe en France, tel le sel. Et ces monnaies locales sont quand même bien développées au Vorarlberg parce qu'elles permettent de soutenir des produits, des commerces locaux, de valoriser donc le lien social et l'échange non spéculatif.
Oui, en fait, on voit en Europe et notamment en France que depuis 2010, pareil, il y a pas mal de monnaies locales, complémentaires locales qui sont nées en France, en Autriche et notamment dans ce land du Vorarlberg. Cette initiative sont plus anciennes, en fait, elles remontent au milieu des années 90. Et notamment, on voit en fait que cet outil de relocalisation, d'essayer de dynamiser au niveau local les communes, la monnaie complémentaire locale, notamment dans une petite commune qui s'appelle Langeneg, qui se trouve en fait dans le nord du Vorarlberg, l'introduction d'une monnaie locale a permis de revitaliser des petits villages qui étaient souvent un peu désertés et laissés de côté, de créer énormément d'emplois. En fait, c'est un outil intéressant et intelligent, très complémentaire du reste des outils économiques et écologiques qu'on voit ici. Les plus efficaces sont en fait à l'échelle très locale au niveau des communes, comme c'est le cas à Langeneg, une petite commune de 3000 habitants, qui a créé, notamment grâce à cette monnaie locale, ils ont créé 200 emplois en peu de temps, c'est étonnant.
Merci Éric Tarian, nous a présenté donc ce Vorarlberg en Autriche. D'ailleurs, c'est un lieu que connaissait très bien Conan Doyle. Hein, si vous regardez un peu ses différents romans, et ben, il a fait mourir pas mal de monde dans le secteur. Hein, c'était ça. Alors, vous retrouvez donc cet article du Vorarlberg dans ce numéro 4 de Oui Demain, avec d'ailleurs d'autres articles. On a reçu Thierry Salomon de l'association des Négawatts, il y a un portrait de lui, on parle de biomasse, etc. Alors, c'est pas un magazine que écologique, hein, loin de là. Mais ils ont quand même une véritable sensibilité sur le sujet.
C'est de mon amour, c'est ces petites émissions que respire sur France Inter.
Denis Chessou.
N'est-il pas mignon ? Ah, mais bien sûr. Quatrième page, quatrième chapitre de cette émission. Donc ça va être la page nature. Et je vais vous emmener, tenez, on y va tranquillement, dans le Puy-de-Dôme. On n'est pas loin de Clermont-Ferrand.
On va grimper, c'est un endroit où...
Alors quand on dit qu'on va grimper, réellement, c'est-à-dire que là, on était sur un sentier, puis là, on est vraiment au pied des blocs de là.
Et dans les chardons, et dans un endroit là qui pose un problème de systématique. Pour nommer les bêtes, il y a une science qui s'appelle la systématique. J'ai attrapé une bestiole, il y avait une Allemande qui faisait une révision du genre pour toute l'Europe de cette bestiole-là. Et moi, j'en ai attrapé une 21e, qui vient semer le bazar dans ses certitudes. C'est-à-dire que cette femme-là a mis 5 ans pour réaliser son travail. Et moi, en lui envoyant gentiment par colis postal ce que j'avais attrapé sur le puits de Crouel, je lui ai en rajouté 2 ans de travail de plus.
Au moins. Et donc, elle vous déteste maintenant.
J'ai contribué. C'est comme ça que je contribue. Je suis récolteur de profession, naturaliste récolteur.
Certes, je vous ai vendu cette rencontre comme étant une page nature et vous entendez beaucoup de voitures. Il faut dire que le lieu est assez incertain. On est entre l'autoroute, on est dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Vous imaginez le centre commercial qui ressemble à tous les centres commerciaux et qui dévaste les paysages en France comme les autres. Le cimetière, l'aéroport n'est pas si loin d'Aulna. Et alors la rencontre, elle a lieu quand même à 400 mètres d'altitude. On va dire sur un ersatz de volcan qu'on a pris le soin d'éteindre avant de le gravir, le puits de Crouel. Notre homme que vous entendez se fait appeler Frédéric Durand. Donc c'est un nom peut-être d'une banalité. côté inversement proportionnel à la personnalité de notre entomologiste. Donc là, on a un portrait qui se précise parce que l'homme est entomologiste le jour et puis il doit gagner sa vie aussi dans un journal donc la nuit. Alors entre les deux, quand même, il dort, il fait des enfants. Il a écrit un livre il y a déjà pas mal de temps qui s'appelle Le Troubleau, qui est un ovni littéraire tout à fait passionnant, même si on ne s'intéresse pas aux insectes. Alors c'est quoi le troubleau? Alors c'est pas seulement un filet avec lequel on attrape des insectes d'eau, parce que c'est ça l'origine, mais c'est aussi un filet qui permet de récolter des souvenirs. Et donc on va en collecter quelques-uns chez ce fou de nature, j'ai presque dire ce tireur d'élytres. Et sur ce puits de Crouel qui n'est pas exactement indiqué, je ne sais pas si sur la carte Michelin il y est, mais enfin bon, ça doit être du genre ne vaut pas le détour. Et bien, bien sûr que si, qui vaut le détour, puisqu'on laisse passer la voiture, puisque c'est son lieu à Frédéric Durand. Vous me suivez, on va grimper vers les insectes et son enfance.
J'ai froid. Moi aussi.
Vous êtes chiants, les gars.
C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Moi, j'en ai assez de la nature à la campagne, quoi.
Oui.
C'est un peu facile. C'est le contraire de ce que souhaitait Marcel et Alphonse Allais. C'est la nature en ville. C'est là d'ailleurs où on vit, donc c'est là où il est le plus agréable de la rencontrer. Quoi.
Bien sûr.
Non mais quand même, on n'est pas très loin de Clermont-Ferrand, on est vraiment en périphérie. Et ce qui est assez surréaliste, c'est de voir ce bout de volcan. Non, c'est quand même un puits. Hein,
c'est un puits, c'est le puits de Crouel, qui domine la plaine de la Limagne, qui est en fait en plein cœur de la zone industrielle. Et c'est ce que je pourrais appeler une île moderne. C'est pas de la mer qui le sépare des autres terrains, c'est une autoroute. C'est une voie de chemin de fer, c'est un parking de grande surface,
ouais, ça sent
plein et une autre quatre voies.
Une suite de corridors, on va dire, un peu comme ça.
Voilà. Donc là, toutes les bestioles qui vivent dans ce coin-là, elles ne pourront pas trouver d'autres partenaires que ce qui existe dans le coin. Dès qu'elles traversent, c'est pire que la vie du hérisson, là. Oui. Là, tout le monde flippe, là. On va grimper par là.
On va grimper par là, on y va. Mais ça manque pas de charme, hein. On a une petite maison de vigneron.
Voilà, les fameuses cabanes de jardin.
Et alors à côté de la cabane, il y a, j'ai presque dire, cet inévitable bidon en plastique qui est d'un bleu extrêmement saillant.
Le bidon en plastique est obligatoire pour élever les moustiques. Oui. C'est le côté du jardinier qui était en fait le premier qui veut qui a compris l'économie, quoi. Oui. C'est-à-dire il économise, il récupère l'eau.
Il récupère les moustiques.
Et il récupère les vieux bidons pour pouvoir récupérer l'eau.
Oui.
Tout est toute une espèce d'économie minimale comme ça. Et
on ne vous ment pas, il y a trois pneus aussi. Alors, c'est quand même pas pour faire un petit puits, hein. Ils n'attendent pas une couche de peinture rouge et blanche, mais il y a quand même trois pneus qui vont servir sûrement à quelque chose, on ne sait pas à quoi.
Les pneus, ils servent exclusivement aux orvées ici.
Oui.
C'est-à-dire que les gens les jettent, les orvées s'installent dessous parce que c'est chaud et ça crée des milieux comme ça parce que la nature est très optimiste. Et
puis c'est la région aussi quand
même. Oui, c'est la région, fatalement ici, le pneu, c'est pas ce qui manque.
Non.
Et donc, effectivement, en sortie du boulot, il y a encore un endémique des zones périurbaines, c'est le jardinier. Et le jardinier ici, c'est pour tous les gamins du coin, c'est une bête farouche parce qu'après son boulot chez Michelin, il vient planter ses rangées de poireaux.
Oui.
Et avec les copains, avec les lance-pierres et tout ça, on essayait bien d'aller dans ces champs où il se passe en fait. Ils sont en même temps ceux qui préservent la nature, puisqu'ils plantent que des poireaux, ils ont leurs petits pommiers, Donc c'est les seules zones sauvages.
Oui.
Donc c'est les seules zones où il est intéressant d'aller courir pour les gamins. Et là, on se faisait poursuivre. Par les jardiniers qui sont des bêtes farouches en fait.
Jardiniers
ouais. Un piochon à la main ou une serpette, c'est toujours armé ces bêtes-là. Cet endroit est très particulier puisque bon. C'est une montagne.
Mais c'est pas laid du tout en plus. Hein. C'est très urbanisé, soyons clairs.
Il n'y a pas plus urbanisé.
Ah bah non, si on tourne le dos, on voit l'aéroport d'Aulna qui est derrière. Les zones industrielles, en veux-tu, en voilà.
Le crématorium.
Ouais.
Et là, c'est quand même un endroit où on trouve la couleuvre lisse, la vipère aspic, les guêpes qu'on appelle des polistes. Quoi. Tout le monde est réuni ici et c'est les résistants. Quoi.
Ouais.
On peut entendre nos chars des partisans bourdonner par le xylocope moyen, mais C'est un endroit.
Alors le xylocope moyen, parce que j'imagine que c'est une bête qui a rapport avec le bois, le xylocope.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'abeille charpentière, qui donc fait des trous dans le bois pour pondre ses larves.
Mais c'est une grosse bestiole, c'est une bestiole assez sympa, c'est un peu un loulou, ça.
Il s'écoute voler. C'est un gros pépère, c'est Bébert le bourdon. Ici, il y a une manifestation qui s'appelle Quand il y a Harley. On les voit tous arriver. Et
Harley Davidson.
Et le bourdon les suit derrière.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles.
Bon, alors Frédéric Durand, allez-y, passez devant. Hop. Attendez, la vue est sûrement belle, mais j'en suis pas encore là, moi. Ah, et puis il y a quand même de très joli lichen là aussi. Hein.
Oui, oui. Des petites plantes grasses, donc des petites plantes succulentes un peu partout. Parce que c'est effectivement exposé plein sud, là, ce coteau. C'est méditerranéen complet, comme biotope. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est par exemple sur un lieu comme ça, c'est que si je voulais en connaître tous les habitants,
oui,
je serais obligé, pour une famille qui s'appelle les Tripoxylons, de m'adresser à un russe. Si je veux connaître les tachysphex du coin, je suis obligé d'envoyer mes bêtes en Californie. Et si je veux connaître...
Ce que vous lui dites, c'est que les spécialistes des différentes bestioles qui ont ces noms barbares auxquels que je ne répéterai pas, ont donc déjà leur monsieur qui inventorie et qui les connaît depuis déjà des années et des années.
Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours un travail énorme. C'est-à-dire pour connaître un groupe.
Ah oui.
C'est-à-dire, par exemple, le groupe qui m'intéresse, il y a 5000 espèces. C'est beaucoup plus que les mammifères.
Ah oui.
Donc toute ma vie suffira pas à être un bon spécialiste de pompil. Donc je serai un médiocre spécialiste de pompil, mais avec le temps, j'espère être bon vers 85 ans.
Vous avez encore un petit peu de marge quand même. Le pompil, donc, auquel vous vous intéressez, c'est une guêpe, mais c'est peut-être un peu trop facile de dire ça.
C'est des guêpes qui chassent les araignées, qui paralysent les araignées pour nourrir leurs larves.
D'accord.
Donc c'est ce qu'on appelle les guêpes solitaires, c'est-à-dire qui ne font pas de colonies, qui ne sont pas sociales. Et la notion de sociabilité, c'est quand il y a un ouvrier.
D'accord.
C'est là que ça commence à se gâter.
C'est quand il est syndiqué, quoi, donc un peu.
Chez les guêpes, le poste d'ouvrier n'est pas enviable puisque tu es stérile et que tu es là pour bosser, quoi. Donc il faut s'imaginer la tête des scientifiques qui ont arrivé à trouver que c'était ouvrier qu'il fallait marquer. Bon, ça, ils auraient pu marquer esclave, ça aurait été mieux. Mais bon.
Ils ont mis ouvrier.
Ils ont mis ouvrier, ouais. Il faut se méfier des scientifiques aussi.
Faudrait venir l'été. Est-ce que tu vas nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Et pourquoi pas? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Insectes sociaux, insectes asociaux, lesquels vous préférez? Enfin, en vous écoutant un petit peu, je pense que...
C'est assez simple de s'en dire que c'est les asociaux.
Oui.
C'est plus rapide. Cette insociabilité peut commencer dès l'école, pour moi. Elle commence dès l'école, puisqu'on me fait aller à l'école comme tout enfant vers 4, 5 ans, 6 ans. C'est la maternelle, c'est obligatoire. Et heureusement, entre la maternelle et ma maison, il y avait le chemin qui amenait jusqu'à l'école. Et
sur le chemin, c'était l'aventure au bord du talus.
Voilà, sur le chemin, c'était tout ce qui fabriquait, tout ce qui m'a fabriqué. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est des vocations. Moi, c'est une constitution. J'ai une colonne vertébrale constituée d'un vertébré, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, vous n'avez pas des diplômes savants entre guillemets d'entomologiste, quoi.
C'est pas une fierté de pas les avoir. J'aimerais bien les avoir. C'était pour moi absolument inaccessible, quoi. Ouais. Parce que déjà dès la maternelle, j'étais déjà parti pour pas y arriver, quoi. Ouais. Donc c'est pas bac plus 6, c'était impossible.
Vous parlez de la mouche que vous vénérez parce que c'est elle qui apporte de la vie parfois dans les classes.
On s'agrippe à tout ce qui est extérieur à l'école. tout ce qui est extérieur prend le pas sur ce que le professeur peut raconter. Et une mouche à l'école, c'est un vrai moment de liberté.
Ouais.
Et j'ai dû faire partie de ceux qui étaient à côté du radiateur, près de la porte ou près de la fenêtre pour s'échapper. Et effectivement, les mouches à l'école, c'était des moments d'absence, mais magnifiques. En fait, toute une vie comme ça peut être fondée sur l'extérieur,
ouais,
au lieu d'être obligatoirement apprise et rentrée dans le moule. Il y a un moule encore plus grand, qui est le moule de l'extérieur, quoi. Et celui-là, il laisse en fait toutes les fantaisies. Alors on pousse un peu comme un buisson, un peu dans tous les sens. On est un peu une sorte de chien d'en moyen, quoi. Mais bon, on pousse quand même, hein.
Donc merci aux insectes, parce que c'est un peu qui vous ont sauvé, quoi.
Oui. Et par exemple, je pense souvent aux guerriers Maasai. Ils ont une chance fabuleuse. C'est des lions à côté de chez eux. C'est directement leur
réservoir à rêve, quoi.
Ouais, c'était facile. Moi, avec un copain, on essayait péniblement de se construire un tipi avec des mulots.
Ah, oui.
Ça a été très pénible, surtout pour les mulots du coin. Parce qu'on a fait on tannait les mulots, on essayait de faire une tente.
Oui.
Bon, je ne sais pas combien de milliers de peaux de mulots il faut pour arriver à faire un tipi, mais un Indien d'Amérique du Nord, c'est un vrai feignant avec ses trois bisons.
Exactement.
Quoi. Et si on avait eu plus de copains comme ça, naturalistes, je pense que s'il y avait un regroupement de naturalistes dans une zone urbaine comme ça, il y aurait des totems marrants avec des têtes de mouches, avec des têtes de lézards, des murailles, avec la tête d'une musaraigne. Quoi, pour moi, tout ça, c'est de l'animisme de banlieue, quoi. Mais c'est présent. Donc il y a des parcelles de liberté. Et dans ces parcelles de liberté, bien sûr, tu as le jardinier qui ne peut pas s'empêcher de mettre ses trois piquets et son bout de barbelé pour t'empêcher de passer. Donc ça, c'est...
Je suis chez moi.
Voilà, c'est ça, je suis chez moi. Sans mais blague. Quand t'es un peu gamin, t'es un peu partout, quoi. Tu vas lui manger ses pommes quand même.
Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je ne fiche pas mal des abeilles. Des abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
Voilà, moi je tenais à vous faire redécouvrir donc cet homme, Frédéric Durand. C'est très intéressant parce qu'il y a tout un réseau, heureusement, d'entomologistes amateurs en France. Ils font aussi un sacré boulot. Il y a des professionnels, mais il y en a de moins en moins. Et puis c'est une parole à la fois qui est vive, qui est drôle et qui est aussi anticonformiste. Donc c'est bien, voilà, on aime bien dans CO2 Mon Amour. Donc Frédéric, je ne sais pas si vous retrouverez son bouquin, donc il s'appelle Le Troubleau. Il doit être en livre de poche, j'imagine. Mais en tout cas, il continue. Voilà, et il y a tout un réseau comme ça qui existe. Et qui perdure et qui relie beaucoup d'entomologistes du monde entier. Alors il nous reste encore un petit sujet, oui, on va faire un petit tour du côté du Lyon-Turin, mais ce sera juste après Raphaël Gualazzi.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato, ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia, la notte magica e sei tutta mia, splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, sembrerà un inganno. Con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce. Bye.
Très agréable ça, Un mare in luce, c'était Raphaël Gualazzi, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Notre cinquième volet, notre cinquième chapitre va nous emmener entre l'Italie et la France avec Dominique Dor, vous êtes le député maire d'Aix-les-Bains, et on va parler de ce tunnel, ce fameux tunnel Lyon-Turin, 57 km. 20 ans après son lancement, bien ce projet de tunnel ferroviaire sous la Maurienne et le Val-de-Suse, aujourd'hui, on va dire, soulève plus de questions que de montagnes. Ce chantier est reconnu comme prioritaire par l'Europe, il doit débuter en 2014. Bon, on dit qu'il y aurait moins de camions sur les routes, mais alors, aujourd'hui, les coûts prévisionnels explosent. La Cour des comptes déplore le manque de visibilité et le pilotage de l'opération qui manque de rigueur. Les écologistes suisses, italiens, français sont vent debout contre ce projet. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Dominique Dor, c'est que vous avez en fait soutenu ce projet et aujourd'hui, bah, vous êtes contre. Racontez-nous.
Écoutez-moi, ça fait effectivement plus de 20 ans maintenant qu'on suit ce projet-là. Mon soutien au projet du Lyon-Turin, il est fondé sur une seule considération. Ça permet de sortir 1 million de camions des routes qui traversent les Alpes pour les mettre sur des trains. Ça, c'est le présupposé d'il y a 20 ans. Et moi, de bonne foi, je me suis engagé à fond derrière cette considération, au fond, écologique. Il y a trop de camions sur les autoroutes alpines, mettons-les sur les trains. Bon. Et il y a 20 ans, on nous disait c'est absolument indispensable parce que le trafic camion va être multiplié par 3 à travers les Alpes françaises. Donc voilà, j'ai de bonne foi, évidemment, soutenu cette affaire. Sauf qu'on est maintenant 20 ans plus tard et qu'on s'aperçoit que les prévisions d'explosion du trafic, multiplication par 3, aucune ne s'est justifiée. Et au fond, on peut dire, en caricaturant un peu, que le trafic d'aujourd'hui est à peu près le même que celui des années 80.
Bon. Ouais.
Donc, comment peut-on continuer, et c'est ce que dit la Cour des comptes, comment peut-on continuer à soutenir un projet fondé sur une hypothèse de multiplication d'un trafic camion multiplié par 3, qui en réalité ne s'est pas produit et qui par ailleurs coûterait aujourd'hui au moins 25 milliards, probablement 30 milliards, alors que l'État n'a plus un rond, que l'État italien n'a plus un rond, et que l'Europe, qui est aussi un des cofinanceurs, vient de voter pour la première fois de son histoire un budget en baisse. Voilà, donc je pense qu'il y a un problème de justification, le projet n'est plus justifié, et il y a un problème de financement, et au fond, c'est ce que dit la Cour des comptes.
Et en plus, il y a évidemment beaucoup de manifestations écologistes dans le Val-de-Suse qui ne veulent pas vraiment entendre parler de ce fameux tunnel. Alors on peut aussi se dire qu'on peut peut-être dépasser ces problèmes de tonnage et de marchandises, et que l'objectif de l'Europe, c'est quand même d'avoir un grand axe ouest-est, dont le Lyon-Turin, donc serait une pièce maîtresse, alors que dans l'Europe du Nord, on a beaucoup de choses. Quoi.
Pourquoi il n'y a pas eu un triplement du trafic de marchandises? Parce que, en fait, le présupposé d'un axe est-ouest n'a pas de sens. Il n'a plus de sens, en tout cas. Il avait probablement encore un sens dans les années 70-80, mais l'économie du monde a complètement changé. Malheureusement d'ailleurs, les centres industriels se sont déplacés, ils ont quitté l'Europe, ils sont maintenant, vous le savez mieux que moi, en Asie ou en Amérique du Sud en particulier maintenant. Et donc les marchandises rejoignent l'Europe par bateau, et quand elles rejoignent l'Europe par bateau, notamment venant d'Asie, elles s'arrêtent à Gênes, qui est le principal port de Méditerranée. Et si vous prenez une carte d'Europe, vous voyez que pour arroser, irriguer l'Europe, les axes ne sont pas est-ouest, mais de Gênes, elles remontent plein nord via la Suisse ou l'Autriche. Et d'ailleurs, depuis 30 ans, le triplement du trafic s'est produit à travers les passages autrichiens, notamment. Donc, si vous voulez, au fond, les prévisions, elles étaient justes sur l'augmentation des trafics de marchandises, en quantité, mais elles étaient fausses sur l'endroit où elles allaient passer. Et aujourd'hui, l'axe est-ouest ne veut plus rien dire en termes de transit de marchandises. Les marchandises montent nord-sud, ou pour celles qui arrivent d'Amérique, elles arrivent sur les ports de la mer du Nord, et donc ils n'ont aucune raison de passer à Lyon, puis à Turin. Ça coûte très très cher, et on a par ailleurs des solutions beaucoup moins chères s'il s'agit d'améliorer le trafic en Savoie et Haute-Savoie que le projet du Lyon-Turin.
Dominique Dor, où en est-on aujourd'hui? On a commencé à faire des repérages, certains creusements donc préliminaires?
Oui, alors c'est l'argument de ceux qui sont pour, qui est de dire, mais attendez, on a déjà dépensé 1 milliard d'euros, ce qui est vrai, en faisant des galeries de reconnaissance énormes, hein, pratiquement à la taille des tunnels. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter cette affaire à ce stade-là, c'est trop tard, c'est commencé. Et d'ailleurs, on a un peu même le sentiment qu'il y a une espèce d'acharnement à continuer à creuser pour surtout démontrer que désormais, le retour en arrière n'est pas possible.
Avec les financements que l'on n'a plus aujourd'hui, où en est-on? Où en est ce projet-là, réellement?
À l'Europe, elle presse un peu les Français et les Italiens de lui dire sur quel pied ils veulent danser. En Italie, vous avez évoqué quelques vicissitudes politiques. Hein. Je rappelle qu'il y a une liste qui s'est présentée il n'y a pas si longtemps que ça et qui a aujourd'hui une cinquantaine de députés au Parlement et qui est violemment hostile à ce projet. Donc les Italiens, on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup commencé à creuser sur le sujet. Et par ailleurs, en France, il y a aussi un peu une partie de poker menteur. Parce que dans le projet du Lyon-Turin, il y a deux aspects, si vous voulez, le voyageur, le transport des voyageurs et le transport des marchandises. Et l'Europe ne financera pas les deux, financera l'un ou l'autre. Or, on peut penser qu'elle serait plutôt enclin ou encline à financer la partie Lyon-Chambéry, transport de voyageurs, dont on dit qu'il pourrait être un axe mixte, c'est-à-dire transportant aussi des marchandises. Une fois qu'elle va financer cet axe-là, je pense qu'elle ne financera plus la liaison proprement dédiée aux marchandises. Vous voyez, il y a quand même encore un grand flou, et je pense que l'Europe, qui est par ailleurs très sollicitée, commence à se rendre compte qu'au-delà des discours qui sont tenus depuis 20 ans, il y a en réalité une stérilité dans l'avancée du projet.
Merci Dominique Dor, donc député-maire d'Aix-les-Bains sur ce Lyon-Turin. Tenez, on va terminer, allez, par une petite note positive qui va nous emmener du côté de Nancy. Sur le répondeur, c'était le 01 56 40 40 35. Il reprendra la rentrée, ne vous inquiétez pas. Et que se passe-t-il à Nancy, Stéphane Harper?
Bonjour Denis. Alors, je vous appelle parce que ce samedi 22 et ce dimanche 23, dans le parc de la Pépinière, la ville et la communauté urbaine du Grand Nancy proposent Embranchement. Alors Embranchement, c'est quoi? Ce sont des rencontres festives autour de l'arbre urbain. Dans ce magnifique parc de centre-ville, nous voulons croiser des regards. Alors des regards de scientifiques, de sportifs, d'artistes et de pédagogues. Bref, des regards d'amoureux des arbres. Alors pour la première fois à Nancy, nous accueillons le concours national d'arboristes grimpeurs. Ce sont 50 compétiteurs qui sont juste derrière moi, on les entend un peu, ils font beaucoup de bruit, et ils vont se défier dans les airs et dans les arbres avec des épreuves physiques spectaculaires. Ailleurs, on accueille des photographes, des artistes d'art contemporain, des bénévoles d'associations environnementales qui proposent leur propre vision de l'arbre. Alors à l'occasion d'Embranchement, nous labellisons aussi des arbres remarquables. Un superbe être pourpre et deux platanes de 260 ans qui ont été plantées par le célèbre architecte de la place Stanislas, Emmanuel Héré. Venez nous retrouver à Embranchement, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et c'est tout ce week-end, de 10h à 19h.
Vous n'hésitez pas, donc à partir de la rentrée du 31 août, 56 40 40 35. Un petit mot sur Terre Sauvage, notre partenaire, le numéro de juillet vient de sortir, ils sont toujours un peu en avance. Au cœur des parcs nationaux, c'est extraordinaire. Aussi, vous verrez le bouquetin, la star des parcs alpins. Et puis, comment randonner dans les Calanques. Eh oui, oui, donc lieu aussi de protection, on le sait, étant aussi un parc national, le dernier en date. Donc, au cœur des parcs nationaux, c'est nos amis de Terre Sauvage. On se retrouve le 31, mais auparavant, eh oui, pendant l'été, dès la semaine prochaine, ben ce sera le samedi à 16h et le dimanche à 16h. Une nouvelle émission qui va s'appeler Naturellement. Alors là, on va être plutôt dans du bien-être, dans de la connaissance et dans du rêve. Voilà, c'est un peu ça. Le but, c'est aussi de se faire du bien, avec bien sûr beaucoup de naturalistes. Hein, vous allez en retrouver. On parlera des oiseaux le 29 juin, donc samedi, mais c'est bien à 16h. Et puis le 30 juin, ce sera les glaciers de... reportage sur la mer de glace que vous connaissez, ben justement, dans le massif du Mont-Blanc dont on a parlé. Ce sera donc pendant l'été, le samedi, 16h-17h. À la place, il y aura entre 14h et 16h, il y aura de la musique sur France Inter. Merci à Virginie Ledio, à Christophe Imbert, notre réalisateur, à Albert Houck, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. L'Atelier du Mont-Petit-Loup, ça continue aussi. Ce sera 19h54 après les petits bateaux.